nzamba
nzambira samirana Merci de rester fidèle à la radio Inzamba Agathe Kakawe dans l'actualité de ce lundi 26 juillet 2021. Ajournement du départ pour la Centrafrique du 7e bataillon burundais de la MINUSCA à une date qui n'a pas été précisée. Le début du déploiement a été prévu mercredi prochain. L'armée burundaise reste muette sur le motif du report. Cri d'alarme des proches de Pascal Tohi, sa famille est sans nouvelles de ce militant du principal parti d'opposition CNL. Il a été arrêté et écroué jeudi et puis extrait du cachot du commissariat communal de police à Rutana le même jour. Et puis inquiétude des habitants des provinces du nord du pays face à l'augmentation des cas de Covid-19. Ils dénoncent le manque de sensibilisation au respect des mesures de prévention contre la pandémie. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À la présentation, Valérie Mucho.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Ouvrons ce journal avec ce report inédit du déploiement du 7e bataillon burundais de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. La raison de ce report n'a pas été officiellement communiquée par l'état-major de l'armée burundaise alors que le départ du premier convoi était fixé à mercredi prochain. Des sources au sein de l'armée confirment que les Nations Unies ont exigé au préalable l'identification des militaires retenus pour cette mission de maintien de la paix en Centrafrique. Ce que l'état-major de l'armée burundaise n'a pas fait pour protéger certains officiers qui se seraient rendus coupables de violations des droits humains. Plus de détails avec Diane Nkurunziza.
C'est ce mercredi 28 juillet que le premier convoi devrait prendre le vol pour Bangui, la capitale centrafricaine. L'information a frustré le week-end dernier dans certains officiers de l'armée annonçant le report de la mission sans préciser ni les motifs du report ni la date exacte du prochain rendez-vous. La nouvelle intervient après bientôt 2 mois de confinement puis redéploiement au camp de Moudoubougou. Des sources de certains cadres de l'armée indiquent que l'identification des officiers et militaires concernés est à l'origine de cette décision. Les Nations Unies avaient pourtant conditionné de présenter les CV pour chacun des militaires, ce que l'état-major de l'armée n'a pas respecté, voulant protéger certains officiers et bien d'autres militaires impliqués dans les cas de violation des droits de l'homme. C'est une étape importante selon le Forum de renforcement de la société civile FOSC. Vital Chimilimana, son délégué général, se focalise sur le cas du lieutenant-colonel Ildefons Balanikwa, le commandant de ce 7e bataillon MINUSCA, un cas qui n'est pas, selon lui, isolé.
Tel est le cas pour le lieutenant-colonel Ildefons Balanikwa, qui a été reproché d'avoir participé dans bien des violations des droits de l'homme. Et ceci n'est que un élément parmi une multitude d'autres, et donc déployer des gens qui se sont rendus responsables de violations des droits de l'homme sur leur territoire dans des missions des Nations Unies, c'est contraire au principe même qui préside dans cette organisation. Et nous continuons à plaider pour que les militaires, les officiers et sous-officiers généraux et hommes de troupes qui ont participé dans la violation des droits de l'homme soient sanctionnés, et notamment par des poursuites engagées contre eux, mais aussi qu'ils soient systématiquement rejetés lorsqu'ils sont proposés pour participer à des missions de maintien de la paix.
Sur la liste des officiers dont les noms sont cités dans ces violations des droits humains figure aussi le major Sabushi Mikemetode. Celui-ci avait été renvoyé par les Nations Unies alors qu'il était proposé lors du 4e contingent onusien de la MINUSCA. Cet officier de l'armée burundaise revient dans la nouvelle mission où il occupe le poste d'officier Move Con et Mouvement Contrôle dans le jargon militaire des casques bleus.
Et puis cette vague d'arrestations en commune Mugamba au sud du pays, 5 personnes ont été arbitrairement appréhendées depuis samedi dernier selon des sources sur place. Leurs proches craignent pour leur vie du moment qu'ils n'ont pas été informés du lieu de détention de ces personnes. De plus, certaines d'entre elles auraient été torturées dans les cellules du Service national de renseignement. Le point avec Beni Axel Akana.
Ceux qui ont été arrêtés samedi dernier sont le prénommé Désiré, le nommé Ngabirano, Dismas Ndokira, Jean-Pierre Tuyiseng et Gérard Bigirimana. Les quatre premiers ont été arrêtés à Mugamba pendant la journée. Le cinquième, Gérard Bigirimana, a été arrêté samedi soir à Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Celui-ci étant le frère de Madame Evine Kamikazi, qui serait actuellement en garde à vue dans les cachots du Service national des renseignements à Bujumbura. Les sources de la radio Inzamba, dans la commune de Mugamba, en province Bururi, révèlent qu'ils ont été tous arrêtés par les agents du Service national des renseignements en complicité avec le commissaire de police au niveau communal, Moïse Alakadza, connu sous le sobriquet de Nyega Nyega. Les proches des familles des personnes arrêtées s'inquiètent de la sécurité dès lors du moment qu'après leur interpellation, elles sont embarquées dans des véhicules vitres teintées qui appartiendraient au Service national des renseignements vers une destination qui n'est pas communiquée à leur famille. Certains doutent la torture et ou la disparition. L'exemple qu'ils donnent est celle de Madame Evelyne Kamikazi qui aurait été torturée dans la cellule de garde à vue au sein du Service national des renseignements à Bujumbura. Evelyne Kamikazi aurait été torturée pour révéler où serait son mari qui a fui le pays depuis 2015. Celui-ci est un ancien militaire de l'ancienne armée régulière ex-FAB avant l'intégration des parti et mouvement politique armé ex-PMPA. Ces personnes arrêtées à Mugamba ne font que gonfler la liste des personnes arrêtées dans la région. Les habitants de Mugamba qualifient ces arrestations d'une chasse sorcière qui est opérée par le commissaire communal de police de la localité, Moïse Alakadza, surnommé Nyega Nyega. La rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, n'a pas encore eu la version de Pierre Mulikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, pour essayer d'éclairer l'opinion sur toutes ces inquiétudes des habitants de Mugamba dans la province Bururi à propos de toutes ces arrestations.
Si ce n'est pas un enlèvement, cela y ressemble beaucoup. Un militant du parti CNL a été sorti jeudi soir du cachot du commissariat communal de police à Rutana, au sud-est du pays, et conduit à une destination inconnue. Selon des proches du détenu, c'est le commissaire chargé du renseignement dans la région sud qui serait responsable de cette opération. Vanessa Muiteka.
Il était environ 21h30 jeudi dernier lorsque Pascal Toi a été extrait du cachot du commissariat communal de police à Rutana. Selon des sources concordantes, Pascal Toi avait été arrêté plus tôt dans la journée et connu dans son cachot. Quelques heures après, dans la nuit, le commissaire régional sud des renseignements est venu et l'a embarqué à bord d'un pick-up sans immatriculation. Une source proche de sa famille dit que Pascal Toi ne faisait plus partie d'aucune formation politique depuis un certain temps. Selon cette source, il s'est converti en fervent membre de l'église Semibou sur les collines Gitanga en commune Gihalo et qui fait du commerce transfrontalier du riz en provenance de la Tanzanie. Sa famille dit que ces dernières nouvelles datent de l'avant-midi de ce même jeudi. Il considère que Pascal Toi est innocent et demande à la police de le libérer, sinon de lui communiquer son lien de détention. La rédaction de la radio Inzamba a essayé de joindre au PC1 Léo Biloli, commissaire régional sud, pour beaucoup plus d'éclaircissements sur ce cas sans succès.
Rendons-nous en province Lomongue pour parler de la destruction du bâtiment abritant la permanence du parti CNL sur la colline Buringa. Cela s'est passé hier dimanche dans la commune Muhuta. C'est la quatrième fois que ce bâtiment est saccagé depuis l'agrément du parti CNL, le Congrès national pour la liberté. C'était en février 2019. Les partisans d'Agathon Gwasa pointent du doigt les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils sollicitent par ailleurs l'intervention du gouverneur de Lomongue pour faire cesser ces actes de vandalisme. Le point avec Jacob Sibomana.
Les membres du parti CNL dans cette province confirment que c'est la quatrième fois que cette permanence ait été démolie en commune Muhuta depuis l'agrément du parti CNL. Ils accusent fermement les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui ne visent que saboter les activités politiques du CNL.
Ce qui se passe dans la commune Muhuta dépasse les entendements parce que ça fait la quatrième fois que cette permanence est démolie et ceux qui le démolissent sont les mêmes. Ce sont ceux qui ne tolèrent pas nos travaux. Ce sont les Imbonerakure et les dirigeants du parti CNDD-FDD. Ce qui est malheureux, c'est que tout cela se fait en présence des administratifs. Cela révolte les membres du CNL.
Il demande au gouverneur de la province Lomongue, par ailleurs natif de la commune Muhuta, d'intervenir afin de permettre ce parti d'exercer les activités politiques comme les autres partis.
Nous demandons en premier lieu au gouverneur de la province Rumonge de réagir en tant que natif d'Omuruta. Ce que nous demandons en deuxième lieu, une fois qu'il se répète, qu'ils arrêtent les auteurs parce qu'ils les connaissent. Et d'ailleurs, ce sont les voisins, les parentés et les amis. Ils sont tous natifs d'Omuruta. Ils ne veulent pas nous voir exercer des activités politiques à la permanence. Ils pensent qu'en démolissant, ils ont la réponse, mais qu'il n'en est pas une, qui nous laisse travailler parce que notre parti est reconnu par la loi.
La rédaction de la radio Nzamba n'a pas encore joint Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Lumonge, pour beaucoup plus d'éclaircissements sur les craintes de ses membres du parti CNL dans cette province. Mais le constat des organisations des défenseurs des droits de l'homme est que dans toutes les provinces du Burundi, il s'observe une intolérance politique et les membres du parti CNL en sont souvent victimes. Certains sont arbitrairement arrêtés et violentés, d'autres emprisonnés, tandis que d'autres encore sont tués, selon toujours ces organisations.
Merci Jacob Sibomana, Radio Nzamba. Avant de continuer, une brève transition, le temps de souffler un peu et nous revenons pour la suite du journal.
Nzamba.
Santé à présent, la montée en flèche des cas de Covid-19 au Burundi et plus particulièrement dans les provinces du Nord inquiète la population. Selon des sources à Kirundo, malgré la menace de cette pandémie, l'administration reste indifférente et ne sensibilise pas les habitants au respect des mesures barrières. Les détails avec Josine Kadze.
Les chiffres des cas positifs montent depuis deux semaines, en particulier dans les provinces de Kirundo, Ngozi et Muyinga. Près de 900 cas ont été enregistrés sur une vingtaine de districts sanitaires sur les 47 que comptent les 15 provinces sanitaires du Burundi. Selon un rapport du ministère de la Santé, près de 500 cas sont enregistrés uniquement dans deux districts sanitaires du Nord, Kiremba et Kirundo. Le district de Bujumbura, quant à lui, compte 150 jusqu'au 24 juillet 2021. Ces chiffres inquiètent les habitants des provinces du Nord qui estiment que l'administration devrait s'investir dans la sensibilisation afin de suivre les mesures barrières pouvant limiter cette propagation.
Les mesures de prévention ne sont pas observées. La plupart des gens ne portent pas le masque, que ce soit au marché ou au bistrot. C'est pourquoi le virus se propage rapidement. Pour les tests effectués vendredi dernier, 106 personnes ont été testées positives. Ceux de samedi, plus de 123 ont été testées positives. Nous demandons qu'il y ait des mesures strictes visant à protéger la population contre la propagation de ce virus.
En plus de ces inquiétudes des habitants, ceux qui veulent faire le dépistage se plaignent qu'ils passent beaucoup de temps d'attente. Les informations en provenance de ces provinces du Nord et que les chiffres publiés par le ministère de la Santé seraient loin inférieurs des cas réels selon des membres du personnel soignant. Le chiffre officiel de la province de Muyinga est 8, tandis que nos sources dans les hôpitaux de Muyinga parlent d'une cinquantaine. Le ministère de la Santé, à travers ce rapport, confirme que c'est la toute première fois depuis l'apparition de la pandémie qu'il enregistre une moyenne de 140 cas par jour. Sur toutes ces inquiétudes de la population, la radio Inzamba a contacté le porte-parole du ministère de la Santé, mais sans succès.
Début du transfert des réfugiés burundais du camp de Mtendeli vers le camp de Nduta en Tanzanie, le premier convoi transportait plus de 300 personnes. Ces réfugiés se plaignent du fait que le temps de se préparer a été très court. Conséquence, certains d'entre eux n'avaient pas encore fini de récolter ce qu'ils avaient semé dans les champs. Delicia Kamikazi.
Le sentiment de surprise et de désarroi est total au camp d'Omtendeli. Selon des sources sur place, c'est ce dimanche que les réfugiés ont vu deux gros camions entrer et stationner le camp. Et aussitôt, les responsables du camp ont ordonné aux réfugiés du village J, communément appelé zone 10, qui abrite les réfugiés du village 1 et 2, de faire manu militari le bagage et de les mettre dans les camions.
L'opération a débuté hier matin quand on a vu des camions gros porteurs entrer au camp vers la zone 10 du village et on a obligé les réfugiés du village d'emballer leurs bagages et de les mettre dans les camions. Chacun était obligé de rester avec une nappe et une couverture. Cette opération était supervisée par la DRC ainsi que les gens du ministère de l'Intérieur de la Tanzanie.
Vers 13h, près de 400 réfugiés étaient dans le bus à destination du camp d'Onduta. Ces réfugiés, assommés par ce déplacement surpris, se posaient alors mille et une questions sur la nouvelle vie qu'ils vont mener à Nduta.
16h, 12h45, le convoi a pris la route vers Nduta, et ce convoi était composé par 8 bis, un véhicule d'Hasser, un véhicule de la Yaradi et une ambulance. Si on fait des destinations, le nombre de réfugiés qui sont allés à Nduta en cette date du 26 juillet est entre 300 et 400. Beaucoup de réfugiés partent dans une grande tristesse car ils viennent de laisser leur champ non récolté, leur bétail n'est pas permis d'être embarqué, mais également leur tristesse est due au fait qu'ils vont commencer la vie à zéro, reconstruire une nouvelle maison, etc.
Les réfugiés demandent au HCR et aux autres organes en charge des réfugiés de respecter les droits des réfugiés ou alors de les trouver un autre pays d'accueil.
Demandons à ce que le HCR puisse chercher un autre pays pour qu'on nous amène vivre là-bas. Parce que si le réfugié continue d'être perturbé, sa psychologie aussi est touchée davantage. Autre chose, le réfugié a des droits et des devoirs et des lois qui le protègent. Donc, nous demandons à ce que les lois qui protègent les réfugiés soient respectées.
Par ailleurs, ce travail de déplacer les réfugiés d'un cas à l'autre est en train de se faire parallèlement à celui du rapatriement que les réfugiés qualifient de forcé. Le transfert de ces réfugiés se fera 3 fois par semaine, tandis que le rapatriement se fait 2 fois la semaine.
Actualité sportive pour clore ce journal. Au volleyball, les formations féminines de Muzinga et les As ont validé leur ticket ce dimanche pour la finale de la Coupe du Président. Et au football, l'équipe nationale du Burundi des moins de 20 ans s'est qualifiée pour les demi-finales de la CECAFA. Elle affrontera ce mardi le Kenya. Les détails avec Blaise Nijimbere.
La finale de volleyball féminin à la Coupe du Président opposera les As à la formation militaire de Muzinga. En demi-finale, Muzinga avait battu Panthers sur un score de 3-7 à 0. Et les As a éliminé Jenda Light Club par 3-7 à 1. Chez les hommes, la finale opposera Gacosmos à Amical des Sportifs de Bujumbura. La date et le lieu de la finale ne sont pas encore connus. Ces précisions viendront du protocole de l'État. Au netball, les finales nationales ont eu lieu ce dimanche. Chez les dames, la coupe a été remportée par Muzinga, qui a battu Flambeau des Jeunes par 46 points à 29. Chez les hommes, Lumière des Jeunes s'est imposée devant Agasaka sur un score de 36 points à 30. Pendant le festival Burundi Bwacu, des matchs ont eu lieu ce week-end. Au basketball, l'équipe de la diaspora, dont le capitaine était Alain Hakizimana, ancien de Runani, a battu l'équipe locale de Blaise Mbonerané, ancien de New Star, sur un score de 79 points à 78. Au football, l'équipe de la diaspora, avec comme capitaine Moussa Basseleman, a battu les locaux par 4 buts à 2. Cette équipe de la diaspora sera ce week-end à Ngozi et à Gitega pour y livrer des matchs. Au tournoi de la CECAFA qui se déroule en Éthiopie, le Burundi a atteint les demi-finales. Le Dinamo Murugamba, de moins de 23 ans, jouera contre le Kenya ce mardi. Pour arriver à cette étape de la compétition, le Burundi a battu au premier match l'Érythrée par 3 buts à 0. Et au second match, les joueurs de Jimmy Daïzeye ont égalisé avec le pays hôte sur un score d'un but partout.
Fin de cette édition, merci de votre attention. Très bon début de semaine à tous.